Gloire à Dieu. Nous allons continuer l'étude sur le Saint-Esprit. C'est une étude qu'on a commencée il y a plusieurs semaines. Puis aujourd'hui, on voit un aspect sur le Saint-Esprit qui est important de comprendre. Parce qu'on sait que notre vie chrétienne dépend de notre communion avec Dieu, notre communion avec le Saint-Esprit. Puis tout ça, ça a commencé lorsqu'on a reçu Jésus comme notre sauveur personnel. Il est entré dans notre vie, puis notre communion avec Dieu, une communion réelle avec Dieu, est commencée par son Esprit qui est en nous, que notre esprit communie avec le Saint-Esprit. Puis nous, c'est lui qui doit nous guider, nous conduire, nous enseigner, nous révéler toutes choses, nous délivrer, nous guérir, nous restaurer. C'est lui qui doit nous amener à être une lumière, un témoin dans ce monde. Puis lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, il fait son œuvre. Puis Dieu agit puissamment dans la vie d'un croyant. Le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est comme, peut-on perdre notre communion avec l'Esprit de Dieu? Peut-on perdre notre communion, notre contact, perdre ce qu'on reçoit de l'Esprit de Dieu? Est-ce que ça peut arriver que l'Esprit de Dieu se retire ou l'Esprit de Dieu nous abandonne? Est-ce qu'il y a des versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de ces choses? Ben, dans la parole de Dieu, la première mention, c'est dans l'Ancien Testament, où ce qu'on voit que l'Esprit Saint ne voulait pas contester à toujours avec l'homme. Dans Genèse 6:3, lorsque ça nous parle d'un contexte assez spécial où ce que des gens qui étaient appelés les fils de Dieu, qui marchaient en communion avec l'Esprit de Dieu, puis ils ont trouvé que les filles des hommes étaient belles, puis ils ont abandonné le fait d'être un peuple à part. Dieu apparemment lui demandait d'être un peuple à part. Puis là, ils ont convoité les filles des hommes, se sont mariés avec, ça a créé une race de géants. Puis c'est là que Dieu a dit que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours ne seront que de 120 ans. On voit ce passage-là a été donné pour nous dire que Dieu n'était pas content de ces gens-là qui étaient appelés les fils de Dieu, des gens qui marchaient avec l'Esprit de Dieu. Puis, dans ces mêmes passages-là, il dit « Toute chair avait corrompu leur voix », même en parlant des fils de Dieu, qui avaient corrompu leur voix, puis ils ont comme contesté avec l'Esprit-Saint, parce que le mot « mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme », c'est le mot « restera pas toujours », c'est « ne contestera pas aussi ». C'est dans la même racine du mot que « contester ». C'est que les gens contestent, puis ils résistent, puis ils s'opposent. C'est ce qu'on a vu la semaine passée sur l'étude de pas résister contre le Saint-Esprit. Puis qu'il y avait on pouvait résister, on pouvait contester, on pouvait s'opposer, on pouvait faire le contraire de ce qu'il essaye de nous amener. Puis Dieu avait déjà déclaré que mon esprit restera pas toujours dans l'homme. C'est comme si Dieu n'a pas l'intention de combattre contre les gens. Les gens doivent volontairement décider de suivre Dieu et de marcher en contact avec Dieu, mais pas faire à semblant. Dieu cherche des hommes et des femmes sincères, réels, qui sont réellement repentis, des gens qui veulent croire puis qui veulent marcher en contact avec. C'est ce genre de relation-là Dieu veut amener avec l'homme, sauf que des fois, les gens cherchent des détours. On voit aussi dans d'autres exemples de l'Ancien Testament, avec l'histoire de Samson. On voit que le Saint-Esprit, Samson était un juge en Israël, puis il était un oint de l'Éternel, il avait reçu le Saint-Esprit, puis dans une manifestation spéciale, que le Saint-Esprit lui donnait une force surnaturelle. Puis avec cette force-là, Dieu utilisait Samson dans le but de délivrer le peuple d'Israël de l'oppression des Philistins et des autres les autres de cette époque-là qui voulaient contester contre Israël. Puis, Dieu avait donné une force exceptionnelle à Samson, puis c'était par l'Esprit de l'Éternel qu'il recevait cette force. Il avait été oint par Dieu pour un ministère spécial, mais il y avait une condition. C'est comme si l'onction qu'il a reçue était conditionnelle à quelque chose que Dieu avait demandé aux parents de Samson, à la mère de Samson. On va aller lire ce passage-là rapidement dans Juges 16, à partir du verset 18. Délilah, c'était sa maîtresse, une femme que Samson convoitait, que Samson désirait, que Samson voulait comme épouse, mais il ne l'avait pas réellement mariée. Oui, il l'a mariée, mais elle était mariée, mais elle n'était pas de tout cœur avec Samson. Puis vu qu'elle faisait partie d'un peuple étranger, qui est une chose que Dieu avait déjà interdit de faire, elle a marié Samson, mais dans le but de le déjouer, dans le but de le faire perdre sa force, puis de le maîtriser pour qu'il ne soit plus aucune résistance contre les Philistins. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, parce que là, elle l'achalait, puis elle lui demandait, c'est quoi le secret pour que tu aies cette force-là? Puis là, finalement, à force de persister, Samson, il a ouvert son cœur, puis il a donné son secret. Une fois qu'elle a eu son secret, elle envoya appeler les princes des Philistins, puis leur dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur, puis les princes et les Philistins montèrent vers elle, puis l'emportèrent l'argent dans leurs mains, parce qu'ils voulaient lui donner de l'argent. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson, puis elle commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force, parce que sa force à Samson était conditionnelle à ce que aucun rasoir passe sur sa tête. C'est une condition que Dieu avait mise pour qu'il puisse conserver sa force. Puis là, elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, puis dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je m'en dégagerai, parce qu'il était sûr qu'il y avait encore la force de Dieu. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. On voit dans ce passage-là, Dieu était avec Samson, mais il y avait encore comme une condition pour laquelle Samson était pour avoir sa force, en autant qu'il ne se fasse pas raser la tête. Puis, ayant dévoilé son secret, il a dit son secret à Délila, qui était son épouse, puis elle l'a trompé, puis elle l'a vendu aux Philistins. Puis, là, elle a rasé la tête, puis c'est de même qu'elle a commencé à le dompter. Puis que là, Samson, il est devenu prisonnier, puis on connaît la suite de l'histoire. Mais le point qu'on voit dans ce passage-là, c'est qu'il savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. On voit qu'il avait perdu sa communion avec l'Esprit de Dieu. Il avait perdu sa communion parce qu'il avait rompu la condition avec laquelle il devait garder ses cheveux longs pour obtenir sa force. En rompant sa condition, ses cheveux ont été coupés, il a perdu sa puissance. On va continuer encore avec la même idée pour voir que le Saint-Esprit abandonna aussi un autre oint de l'Éternel qui était oint comme roi sur Israël. Son nom, c'était Saül. Puis là, Saül, il devait marcher comme le conducteur du peuple d'Israël. Il a été le premier roi d'Israël. Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël ait un roi, mais le peuple d'Israël a insisté. Puis là, Dieu leur a permis d'en avoir un. Puis, ce personnage-là, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être à cause que c'est la pensée d'être un roi monte à la tête d'une personne. Il se pensait au-dessus des lois de l'Éternel, puis il se permettait d'enfreindre la parole de Dieu, d'enfreindre sa volonté, de faire le contraire de ce que Dieu dit, parce qu'il était le roi. Puis là, il a été... On voit cette histoire-là dans Samuel, dans le 1 Samuel au chapitre 16, qu'on voit que Samuel y a été, puis il a reprimandé, puis là il a dit, Samuel lui dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? » Il dit, « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, puis l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, puis la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi comme roi. » Puis comme de fait, dans quelques versets plus loin, au verset 14, dans 1 Samuel 16, 14, « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » On voit que dans ce passage-là que le roi Saül avait l'esprit de Dieu, il possédait l'Esprit de Dieu, il était en communion avec l'Esprit de Dieu, il était dirigé par l'Esprit de Dieu, il recevait, il entendait la voix de l'Esprit de Dieu, mais il obéissait pas, il écoutait pas, il résistait, puis il a rejeté la parole de Dieu pour faire sa volonté. Puis il a désobéi à Dieu à tel point que Dieu l'a rejeté comme roi. Puis qu'on voit que l'Esprit de l'Éternel s'est retiré de Saül. Puis en plus, non seulement que l'Esprit de l'Éternel s'est retiré, mais il fut agité par un mauvais esprit. Dieu a permis que ce personnage-là soit attaqué par un mauvais esprit, qu'il soit tourmenté. Là, si on suit encore la même idée de la révélation de l'Ancien Testament, c'est que pour garder la communion avec Dieu, il fallait que les gens demeurent dans la communion avec Dieu, demeurent dans la foi en Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dans la révélation de l'Ancienne Alliance, c'était connu que ceux qui abandonnent, que Dieu était pour abandonner ceux qui l'abandonnent. Ceux qui prennent pas à cœur d'obéir à la parole de Dieu, puis ils résistent, puis ils font le contraire, puis en fin de compte, qui marchent dans leur propre voie, ils étaient rejetés de la part d'Éternel, puis l'Esprit-Saint se retirait. 2 Chroniques 15:1, ça nous dit que l'Esprit de Dieu était sur Azaria, c'est un fils d'Obed, et Azaria allait au-devant de Asa et lui dit, « Écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Déjà dans l'Ancien Testament, c'était compris que l'Éternel il est avec nous quand on est avec lui. C'est que notre communion avec Dieu, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Notre communion avec Dieu était conditionnelle à ce que nous demeurions en communion, en cherchant sa face, en cherchant, en marchant selon sa volonté. Je dis pas qu'il fallait être parfait, mais il fallait que les gens recherchent d'être avec lui. La preuve de ça, on voit que le roi David, qui a péché lui aussi, il a fait des choses que Dieu n'aimait pas, mais il a prié Dieu. Il s'est repenti quand il a été dévoilé, puis il a une repentance sincère. Puis ça nous a été écrit dans le psaume 51, comme quoi que David, dans sa prière, là, si vous allez lire le psaume 51 au complet, c'est suite à ce qu'il a péché avec Bathsheba, qui a pris. Bathsheba était la femme d'un autre, puis David a fait tuer son mari, puis il a pris sa femme, puis là, ça a été comme un gros péché devant Dieu. Puis Dieu a envoyé son prophète aller parler au roi David pour lui dire que c'était pas bien qu'est-ce qu'il avait fait. Puis David, lui, il s'est repenti. Puis dans sa prière, ça nous a été écrit dans un psaume, c'est dans le but de nous montrer le cœur de David, comment est-ce que lui, quand il faisait un péché, il se repentait immédiatement quand il était en connaissance de cause de ce péché-là, ou quand il réalisait que c'était mal, qu'est-ce qu'il avait fait. Puis dans la manière qu'il écrit son texte, dans le psaume 51, verset 10, ça nous dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. On voit que moralement, il était affecté, tout son intérieur était démoli. Il ne sentait plus la présence de Dieu, mais ce qu'il craignait le plus, c'est d'être rejeté par Dieu. C'est quelque chose qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas non plus perdre l'Esprit Saint. Il voulait pas que Dieu lui retire l'Esprit Saint. C'est pour cela que David s'est repenti, parce que son désir d'être en communion avec Dieu était plus grand que n'importe quel péché. Il était prêt à tout confesser pour garder sa communion avec Dieu. On voit que ceux qui cherchent Dieu, quand on est avec Dieu, Dieu est avec nous. Si on le cherche, on va le trouver. Mais si on l'abandonne, il nous abandonnera. C'est ça qui était la pensée de l'Ancien Testament. Si une personne avait à cœur de se repentir et de revenir à l'Éternel, elle pouvait être renouvelée et retrouver, garder cette communion avec le Saint-Esprit. Maintenant, quelle est la pensée du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance à propos de notre communion avec l'Esprit de Dieu? Y a-t-il des allusions qu'il est possible de perdre notre communion avec Dieu dans le Nouveau Testament? On voit déjà au début, quand Jésus-Christ il a dit « Vous allez recevoir le Saint-Esprit afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Ça, il y a ce verset-là qui est mentionné. Un autre passage qui nous parle que « Nul ne nous ravira de la main du Père » et ainsi de suite. Dieu, son désir, c'est de donner le Saint-Esprit pour que ce soit pour l'éternité. Dieu, il a pas l'intention de donner l'Esprit juste à moitié. Il nous le donne, puis c'est pour l'éternité. Sauf, y a-t-il des conditions pour le garder? C'est là qu'est la question. Parce que dans l'Ancien Testament, il a donné son Esprit, puis Dieu se repent pas de ce qu'il donne, sauf qu'il a toujours mis des conditions. Que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il y aura des conditions pour le garder. Est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a des conditions pour nous permettre de conserver notre communion avec lui? Est-ce qu'il y a un état d'esprit, humainement parlant, qu'un chrétien doit avoir pour demeurer dans l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu, qu'on se retrouve pas sans lui? Mais oui, il y en a des passages, puis il y a des conditions, puis c'est aussi simple que les celles de l'Ancien Testament. Il s'agit juste de s'arrêter puis de méditer sur les passages, puis vous allez vous apercevoir que la parole de Dieu nous parle déjà là-dessus dans le Nouveau Testament. Dans la Nouvelle Alliance, la promesse de Dieu qu'il ne nous abandonnera pas, ça on le retrouve à plusieurs points, mais cette promesse est conditionnelle à ce que l'on garde la foi en lui, qu'on veuille demeurer en communion avec lui. Donc, ça revient comme dans l'Ancien Testament, que si on le cherche, on va le trouver, puis si l'Éternel est avec nous quand on est avec lui. C'est si on l'abandonne qu'il va nous abandonner. Dans 1 Jean 2,28, ça nous dit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne serons pas confus et éloignés de lui. » Dans ce passage-là, c'est en train de nous dire que chaque être humain, chaque enfant de Dieu, doit veiller à demeurer en Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus-Christ va revenir, il ne faut pas qu'on soit confus, mêlé, autrement dit, mêlé dans notre esprit, puis éloigné de lui. Donc, c'est pas parce que Dieu voulait pas être avec nous, c'est nous qui n'avons pas demeuré en lui. Il est important de réaliser qu'il est possible d'être éloigné de lui, que nous soyons plus en communion avec l'Esprit de Dieu. Ça peut arriver qu'on est éloigné de lui, mais la Bible nous exhorte de demeurer en lui, afin qu'au jour où il va revenir nous chercher, qu'on soit pas éloigné. Il nous parlera pas qu'une possibilité d'être éloigné si ça n'existerait pas. Mais il y en a d'autres passages qui en parlent dans la même pensée, dans la même idée, que c'est conditionnel à ce que nous, on veuille demeurer en lui, que nous l'abandonnions pas. Il est clairement écrit que notre communion est conditionnelle à notre persévérance dans notre foi. Parce que le salut, là, il a commencé lorsqu'on s'est engagé par la foi. Lorsqu'on a confessé que Jésus-Christ était notre Seigneur, on a confessé qu'on croyait qu'il est venu, qu'il est mort sur la croix, qu'il a versé son sang, puis grâce à son sang, je suis sauvé. J'ai cru et j'ai confessé et je me suis repenti, je me suis converti, je me suis engagé à suivre Jésus-Christ. Je me suis engagé à marcher en communion avec lui, à demeurer dans sa parole. C'est ça la conversion, à vouloir marcher dans sa parole, puis à marcher en contact. Puis ça, c'est un désir de cœur-là que j'avais lorsque je me suis converti. Ça a fait que j'ai reçu le pardon, puis j'ai reçu le Saint-Esprit. Puis mon contact a commencé là. Dieu m'avait parlé avant d'être converti. Dieu nous parle, puis il nous appelait à aller à lui. Mais au moment qu'on l'accepte, qu'on le confesse, puis qu'on s'engage, puis qu'on commence à obéir, dans le sens où on se fait baptiser d'eau, on joint une église locale, on commence à aller la parole, puis on laisse le Saint-Esprit nous conduire dans sa parole, Le Saint-Esprit fait une œuvre à cause de notre foi. Mais il est important de garder la persévérance dans notre foi, de persévérer jusqu'à la fin dans cette foi. Dans Hébreux 10, 38, ça nous dit, « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Là, ça dit, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » On voit dans ce passage-là qu'il est important pour quelqu'un qui s'est engagé par la foi, puis qui a reçu le Saint-Esprit, qu'il s'engage à persévérer. Un vrai chrétien ne se retire pas pour se perdre. Mais malheureusement, il y a des gens qui se sont retirés et ils se sont perdus. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a d'autres passages, on va en lire un autre tantôt. Puis dans d'autres passages des Écritures, on voit qu'il y a des gens qui ont abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, puis des doctrines de démons, puis toutes sortes de choses. Les gens abandonnent la foi parce qu'ils n'ont pas de racines profondes. Ils reçoivent la parole, ils commencent à suivre le Seigneur, mais vu qu'ils n'ont pas de racines, dès que survient les tribulations, la persécution, ou ils vivent dans entourés de convoitises, puis ils courent après toutes sortes de choses qu'il y a dans ce monde, puis ça étouffe la parole, ça la rend sans fruit. Les gens abandonnent parce qu'ils n'ont pas de foi qui résiste au temps et aux épreuves. Puis il est important que notre foi passe l'épreuve du temps, qu'on puisse persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Dans ce passage-là, dans Hébreux 10, c'est très clair qu'on va vivre par notre foi, mais si on se retire, Dieu prend plus plaisir en nous. Puis quelqu'un qui se retire, il se retire pour se perdre. C'est quelqu'un qui se perd, quelqu'un qui est en contact avec l'Esprit de Dieu, mais là, il est rendu perdu. Mais nous, on veut garder la foi pour sauver notre âme. Paul, dans un autre passage, quand il parle aux Corinthiens, il va même à dire qu'il est possible d'être disqualifié par notre abandon de la foi. Dans 2 Corinthiens 13, 5, ça dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? » Là, on voit quand que Jésus-Christ est en nous, c'est là qu'on a une communion avec l'Esprit de Dieu. Est-il possible de le perdre? Il dit, à moins que peut-être vous ne soyez réprouvé. Puis le mot réprouvé qui est là, ça veut dire disqualifié. C'est qu'il y a des gens qui auraient été disqualifiés, qu'il y a une possibilité que quand tu es chrétien, tu es rendu un disqualifié, que l'Esprit de Dieu est plus en toi parce que tu demeures pas dans la foi. Il dit dans ce passage-là, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, vérifiez si vous êtes vraiment dans la foi qui sauve, c'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous vous restez pas, ne demeurez pas dans la foi, vous allez être devenu disqualifié. C'est que Jésus-Christ ne demeurera plus en vous. La communion avec l'Esprit de Dieu va être rompue si on abandonne la foi. Encore une fois, il est important de réaliser qu'il faut persévérer dans notre foi. C'est une condition essentielle pour garder notre communion avec Dieu. Croire aussi à un autre moyen d'être sauvé, ça nous sépare du Christ et de son salut. Disons, on voit ça dans Galates 5, 4. C'est un passage assez sévère parce que ça parle à des gens dans la ville de Galatie, des gens qui marchaient par la foi, qui étaient sauvés, puis ils appartenaient au Seigneur, sauf qu'ils ont commencé à croire qu'il fallait qu'ils retournent à la loi de Moïse. Aux 613 préceptes des commandements de Moïse, de se faire circoncire, puis de pratiquer la loi tout entière, puis d'observer les fêtes, les lunes, puis tout le kit, ce qui était les prescriptions de Moïse. Ils pensaient d'être sauvés en pratiquant la loi des 613 préceptes, de revenir au judaïsme, autrement dit. Puis, Paul, dans Galates 5:4, il dit, d'une manière assez sévère, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. On voit que les gens, quand ils viennent à Jésus-Christ, sont pardonnés de leurs péchés, reçoivent le Saint-Esprit. Sauf que, la minute que tu commences à croire que c'est d'autres choses qui te sauvent, que c'est plus Jésus-Christ, que là, tu te mets à croire, ah, faut que je pratique la loi pour être sauvé, ou faut que je retourne à devenir catholique, ou que je retourne à, ou je change pour devenir musulman, ou je deviens bouddhiste, ou je me mets à croire en d'autres choses pour être sauvé. Si on abandonne notre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, mais on est déchu de la grâce, puis on est séparé du Christ. Nous perdons notre communion avec l'Esprit-Saint. Séparé de Christ, c'est de perdre notre communion. Nous perdons notre salut. Nous sommes déchus de la grâce. La grâce, là, c'est un cadeau qui est offert à cause de notre foi en Jésus-Christ. La grâce, c'est un cadeau. C'est pas quelque chose qui se gagne. C'est quelque chose que Dieu te donne parce que tu le mérites pas. Il y a personne qui mérite le cadeau du ciel, mais il nous le donne à une condition qu'on ait mis notre foi au sacrifice. Puis cette condition doit être gardée jusqu'à la fin. Nous ne devons pas croire en autre chose que c'est Jésus-Christ seul qui peut nous sauver. Son sang qui était versé à la croix, c'est le moyen que Dieu a donné pour qu'on puisse être sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen que cela. Si nous commençons à croire que c'est retourner à la loi ou changer de religion, nous sommes séparés de notre communion avec le Christ. On voit encore un dernier passage que pour parler de ce petit partage-là, qu'on doit garder notre communion par la persévérance dans la foi et la sanctification. Un désir de vouloir marcher en contact avec l'Esprit-Saint, c'est un désir à vouloir se séparer du monde. Dans Hébreux 3, le verset 12, le Hébreux est encore en train de nous avertir dans une mise en garde qui nous dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est en train de nous dire que des gens qui peuvent s'endurcir, qui peuvent avoir un cœur mauvais, incrédule, pour se détourner de Dieu. Puis là, ça parle à des chrétiens, là. Mais ça nous dit, au verset 13, « Exhortez-vous les uns les autres, aussi longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui. » On doit, entre chrétiens, s'encourager à garder la foi, tant qu'on est en train de dire « on est aujourd'hui », donc si on est encore aujourd'hui, c'est parce qu'on est encore vivant et qu'on a encore à demeurer dans la foi. « Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Ça, là, c'est important de réaliser que si nous sommes chrétiens, que nous péchons volontairement, que nous péchons, nous désobéissons à Dieu, que nous ne gardons pas sa parole, ça, c'est le contraire de se sanctifier, parce que quand quelqu'un il veut devenir chrétien, c'est dans le but de devenir un saint, de se sanctifier. Là, on veut se purifier, on veut fuir le péché, puis on veut marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Mais le contraire de cette vie-là, c'est de se souiller, de marcher dans le péché. Mais à force de marcher dans le péché, on s'endurcit. Puis si on s'endurcit, on peut devenir à avoir un cœur mauvais, et incrédule, à cause de notre incrédulité, on s'est endurci, puis là, on se détourne de Dieu. On se détourne de la marche en communion avec l'Esprit de Dieu. Dans le verset 14, qui est comme une conclusion de ce que je vais apporter, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Voyez-vous, ce petit verset-là là, résume tout ce que je viens de vous dire. On est des participants du Christ. Quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu t'es repenti, tu l'as confessé, tu l'as reçu, tu as reçu le Saint-Esprit, ta vie a commencé à changer. Ça, c'est l'assurance que tu avais au commencement qui t'a sauvé. La foi en Jésus-Christ t'a sauvé. Mais tu es devenu un participant du Christ pourvu que tu retiennes fermement jusqu'à la fin. Cette assurance-là que tu as eue au commencement. Faut que tu gardes cette foi-là jusqu'à la fin. Cette même assurance-là que c'est Jésus-Christ seul qui te sauve. On ne doit pas abandonner. Mais il y a des versets qui parlent qu'il y a des gens qui vont abandonner. Mais nous, on veut faire partie de ceux qui vont persévérer. Jésus-Christ a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Prions. Père, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que je te prie, puis je te remercie pour ces versets qui nous éclairent, qui nous illuminent, pour nous faire croire, pour nous faire penser que le salut, On doit l'entretenir, notre communion avec toi. C'est conditionnel à ce qu'on garde la foi. Donne-nous de persévérer dans la foi, pas se laisser détourner. Donne-nous de marcher toujours de plus en plus d'une manière que te soit agréable, afin de pas s'endurcir, puis de pas s'éloigner de toi, Seigneur. Garde-nous dans la foi et donne-nous de persévérer jusqu'à la fin et donne-nous, Seigneur, de s'encourager les uns les autres à persévérer. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.